Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 25. En Espagne, déterrer la mémoire.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Ma grand-mère avait une maison dans le sud de l'Espagne. Elle était construite au pied d'une route qui grimpait jusqu'au petit village blanc de Mijas. Ce village, Mijas, il n'est pas très loin de l'aéroport de Malaga. Alors ils ont construit un grand parking, et la journée, il y a des cars de touristes qui montent, et des groupes qui, deux par deux, par trois, sous leurs chapeaux et leurs lunettes de soleil, prennent des granissadas sur la place du village. Il y a un fond sonore un peu comme celui-là, des grillons, on en a mis pas mal pour se faire plaisir. Certains touristes entrent dans les magasins de souvenirs acheter des santons ou des cartes postales avec des danseuses de Sevillana, leurs robes incrustées de tissus véritables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes comme celles-là, elles sont formidables, j'en envoyais tous les étés. Et puis dans ce village, il y a aussi un musée. Un musée où il n'y a presque jamais personne et où il y a des objets qui racontent l'histoire agricole du village, les traditions. Et en haut d'une volée de marche, il y a aussi une reconstitution de chambre. C'est la chambre dans laquelle Manuel Cortés s'est caché. Cet homme, c'était un topo, une taupe. Il était maire républicain de Mijas en 1936. C'est alors qu'il y a eu le coup d'état de Franco. Manuel Cortés est parti se battre. La guerre civile espagnole a duré 3 ans. Elle a fait 400 000 morts et autant d'exilés républicains. Manuel Cortés, lui, n'a pas choisi l'exil. Il a voulu rentrer en Andalousie et retrouver sa femme et sa fille. En arrivant chez lui, celle-ci lui a dit qu'il était complètement fou. Tous les républicains avaient été abattus, il fallait qu'il se cache. Alors, derrière une armoire, derrière les cintres et les vêtements, ils ont dissimulé un lit, une radio et des revues. Manuel Cortés s'y est terré. Il est resté là pendant 30 ans. Il y en a eu plusieurs comme lui. Des hommes enterrés vivants jusqu'à la mort de Franco. Le dictateur est décédé en 1975. 2 ans plus tard, une loi a été promue, une loi d'amnistie pour tous, partisans et opposants du franquisme. L'idée, c'était de réconcilier, pour aller vers la démocratie et vers l'Europe. Il a fallu donc oublier tous les crimes commis. Moi qui venais là, dans ce village, tous les étés, je ne le savais pas, mais en fait, c'est rare, encore aujourd'hui, un musée comme celui-là, dans lequel on parle de ce qui s'est passé.
Tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. Gente del pueblo, por todo lo de Franco. La encontraron al día siguiente, a orilla de la carretera. No los pudieron meter en el cementerio. El pueblo no los dejó.
Ce qu'on entend là, c'est le bruit d'un bouquet qu'on accroche à un bord de route. Une dame marche difficilement de chez elle jusqu'à cette nationale. Elle accroche ce bouquet. Elle dit « J'avais 6 ans quand ceux de Franco sont venus pour ma mère. » Elle fait un cercle avec la main. Elle dit la fosse commune où a été enterrée ma mère. Elle est là, elle est sous le goudron. C'est la scène d'ouverture d'un film qui vient de sortir. Il s'appelle « Le silence des autres ». Il est produit notamment par Pedro Almodovar et il raconte comment ce pacte du silence, cette amnistie, a été mise en place après la fin du franquisme.
Lo injusta que es la vida, no la vida, lo humano, somos injustos.
La vieille dame est assise par terre au bord de l'autoroute. Elle dit « la vie est injuste ». Elle réfléchit longtemps et puis elle corrige. Non, pas la vie. Les humains sont injustes. Et dans ce film, c'est la question de la justice qui se pose. 40 ans après les faits, est-ce qu'il faut revenir sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut ouvrir les fosses et créer des commissions de vérité? Est-ce que la démocratie, la réconciliation, elle fonctionne mieux avec ou sans mémoire? Ces questions d'histoire, de mémoire, elles se posent sur tout le continent européen et notamment en Pologne avec l'histoire de la Shoah ou encore dans les Balkans. David Riff, qui est analyste politique, a écrit un livre sur le sujet, L'éloge de l'oubli, la mémoire collective et ses pièges.
La sacralisation de la mémoire a été une grande erreur.
Il était invité dans une émission de France Culture sur le sujet, je mettrai le lien de l'émission sur la page.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation dans lesquelles la mémoire est préférable, mais simplement qu'il y a aussi des situations où il faut au moins considérer la possibilité que l'oubli par oubli, je parle du silence public, mais que le silence public, l'oubli, devrait être considéré comme possibilité honnête et morale.
En Espagne, beaucoup parmi les nouvelles générations refusent ce silence public. Ils sont si nombreux que depuis 10 ans, on parle d'une révolution des petits-enfants, la revolución de los nietos, ceux qui refusent l'oubli. Dans cet épisode, je vous propose de les entendre et de revenir sur cette chronologie du silence et son implication en Espagne et au-delà. Pour résumer les choses, quand j'ai Pablo au téléphone, il me dit « Depuis la guerre civile, il y a eu 3 générations. L'une, c'est la génération qui a vécu les choses. La suivante, c'est celle qui a oublié. La dernière, c'est la mienne, celle des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. C'est celle qui veut se rappeler. » Lui aussi a vu le film « Le silence des autres ».
Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a bouleversé, comme la plainte d'amis à moi ou d'Espagnols de ma génération, ou même de la génération presque de ma mère aussi, qui ne savait rien par rapport à ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de travail de mémoire qui s'est fait, donc, et parce qu'on n'étudie pas le franquisme, parce qu'on n'étudie pas la guerre civile, donc du coup... Ça a été un bouleversement au début, vraiment au niveau surtout émotionnel, très très fort. Et...
Qu'est-ce qui t'a frappé en le voyant? Qu'est-ce que tu ne savais pas?
Pas tout. En fait, c'est ça, c'est ce qui m'a frappé, c'est que je ne savais rien. Donc, comme c'est que ma génération et les générations d'après la transition ne sont pas informées par rapport à tout ça. Par rapport au crime du franquisme, par rapport aux fosses, par rapport aux bébés volés, en général par rapport au franquisme, même par rapport à la guerre civile, c'est toi qui dois y aller, t'informer. Et ce film, ça a réveillé une envie de connaître, en fait.
Alors Pablo a fait des recherches et posé des questions. Et avant d'aller plus loin, je vous propose d'apprendre à connaître Pablo. Quand je suis allée chez lui, Pablo, il a 25 ans, il a beaucoup de cheveux, c'est peut-être la première chose qu'on remarque. Il dit qu'il a les yeux obscurs. Il a aussi 2 boucles d'oreilles dorées, une de chaque côté. Et non, ses parents n'ont rien dit, ils ne l'ont pas grondé. Il dit que c'est parce qu'ils l'ont eu jeune. Pablo a grandi à Barcelone, dans une rue en pente, près de la Sagrada Familia, la basilique inachevée de Gaudi. Son film d'enfance était Le Livre de la Jungle, puis il a aimé Pulp Fiction, qu'il a vu un peu en cachette. En 2003, il avait manifesté avec sa mère contre la guerre en Irak, et dernièrement, contre les violences machistes. Mais en vrai, il dit qu'il ne descend pas souvent dans la rue. Il a choisi de faire des études de politique et d'éthique, et il a fait des travaux sur l'individualisme pendant son échange à Rome. C'est là qu'il a rencontré les amis avec lesquels il a créé son groupe, les Mondains. Ils ont même sorti un album, alors il retourne, de Paris, où il a maintenant trouvé du travail, à Rome, une fois par mois, pour faire des concerts devant 50 à 100 personnes. Il chante alors en français, espagnol, italien, parfois en danois, parce que l'autre chanteur est de là-bas, mais ils évitent l'anglais.
Tout le monde écrit en anglais à la fin, non? C'est moins intéressant, je pense.
Je lui demande s'il parle de politique dans ses chansons. Il dit que non.
On aime beaucoup parler de sexualité, non? De déviations sexuelles étranges, un peu inspirées de Sade, de Bataille, tout ça. Et bon, après, c'est pas le seul sujet, non? On parle d'amour, évidemment. On parle de nous, comme de la jeunesse, de nos expériences aussi. Mais voilà, quoi.
Aujourd'hui, Pablo vit avec sa copine dans un appartement qu'il squatte. Quand je suis allée les voir, il m'a chanté un morceau. Sa copine était là, elle nous regardait, elle a l'air très sympa. Je me suis dit que ce serait joyeux si c'était à elle qu'il pensait, en chantant ces mots d'amour.
Hay una mujer y la quiero, pero la quiero ver.
Pablo m'explique qu'il regrette déjà la vie universitaire, même s'il aime bien ce qu'il fait aujourd'hui. Il a vu le film « Le silence des autres » bien avant tout le monde parce qu'il travaille dans l'équipe de distribution. Il y avait le DVD parmi d'autres, ça l'a intrigué, notamment parce que le film a été monté à partir de 450 heures de rush, filmé sur 6 ou 7 ans. Après l'avoir vu, il a décidé de travailler sur le projet et il a aussi décidé de poser plus de questions à sa famille. Peu d'histoires avaient circulé sur ce qui s'était passé pendant la guerre et après. Sauf une, celle-ci, venue de sa grand-mère maternelle.
Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle, j'ai vécu avec elle jusqu'à mes 15 ans. Et dans la même maison, oui.
Pourquoi? Parce que ton grand-père était décédé?
Mon grand-père, il est décédé quand j'avais 1 an et demi, un truc comme ça. Je ne m'en rappelle pas de lui, mais et du coup, on vivait ensemble, quoi, avec ma mère et ma grand-mère. Elle, c'est une femme très apolitique. Donc, elle, ce qu'elle disait en général, c'était que si tu ne mettais pas ton nez dans la politique, tu t'en sortais mieux. Elle me disait ça, c'était sa phrase.
Pas mettre son nez dans la politique. Parce que toi, tu voulais mettre ton nez dans la politique?
Non, mais moi, je pose des questions, je veux dire, je suis curieux, donc j'aime bien savoir. Mais par contre, il y avait une chose qu'elle me racontait très souvent. Mais je pense que c'est pour ça, parce qu'après, il y a ce sentiment de peur aussi. Elle, par exemple, ça, c'est une anecdote marrante, ça. Bon, marrante, si on me regarde avec une perspective. Quand elle va se faire la carte d'identité au commissariat, elle a toujours des frissons. Pour elle, rentrer dans le commissariat ou dans la direction générale de sécurité, comme on disait à l'époque, ça veut dire entendre les bruits des gens qui se faisaient torturer. Elle, à l'époque, ses parents, ils avaient une pension dans le centre de Barcelone. Et comme il y avait plein de touristes, elle devait ramener la carte au commissariat avec tous les noms écrits des gens qui étaient, je veux dire, le registre des gens, on va dire, non? Et elle, quand elle allait là-bas, elle entendait tout, non? Cris des gens qui se faisaient tabasser, quoi. Mais qui étaient dans des chambres loin, non? Mais on les entendait, quoi. Et du coup, c'est que maintenant, quand elle va se refaire la carte d'identité ou pour n'importe quelle raison au commissariat, elle a peur. Mais ça, c'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, oui. Enfin bon, ma grand-mère, elle raconte des histoires plusieurs fois, donc n'importe quelle histoire, elle a raconté plusieurs fois.
Après avoir vu le film, c'est vers son autre grand-mère que Pablo s'est tourné, côté paternel.
Du coup, j'ai, en plus de plusieurs lectures par rapport au franquisme, j'ai aussi posé des questions à ma famille, non? De qu'est-ce qu'ils savaient de tout ça, non? J'ai posé des questions en premier à ma grand-mère paternelle. Son père, c'était un républicain convaincu. Et quand il y a eu le soulèvement de National, en 36, des nationaux, il s'est fait arrêter avec son frère. Et à son frère, on l'a fusillé. Et lui, il a eu la chance de pouvoir sortir de prison par rapport en plus à un ami phalangiste. C'est-à-dire aussi, c'est par rapport à un ami de l'autre côté, mais qu'il savait qu'il était en prison. Il a intervenu pour le sortir de prison. Bon, et que ça peut aussi résumer beaucoup de choses de la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des... C'est une guerre civile, c'est quelque chose d'hyper complexe, parce qu'il y a beaucoup d'émotions et de relations qui sont dedans. Ma grand-mère, justement, elle a écrit un livre par rapport à toute son enfance, qui s'appelle « Memoria entre l'azul y el rojo », c'est « Mémoire entre le bleu et le rouge ». Parce qu'elle raconte comment, après justement, les franquistes, ils ont gagné la guerre, il y a eu la dictature qui s'est instaurée, les années de post-guerre, ils ont été super durs. C'était les pires années du franquisme, c'était après, genre, justement, parce que là où ils se sont déchaînés avec la boucherie qu'ils ont fait. Et la répression surtout. C'était des années d'une pauvreté, d'une misère. L'Espagne, elle succombait dans la misère. Et ma grand-mère, dans ce livre, elle raconte comment tout ce qu'on disait à la maison ne pouvait pas être dit dehors de la maison. Parce que sinon, ils étaient foutus, quoi. Le mari de ma grand-mère, du coup, mon grand-père, c'est son côté, ils étaient franquistes. Et à la maison, on ne parlait pas de la guerre. C'est un sujet interdit. Et ça parle de ça, de cette contradiction, en fait. De grandir dans cette espèce de contradiction, de cette privation de la parole. Et du coup, j'en dirais qu'en fait, il y a une espèce de silence qui traverse l'Espagne depuis très très longtemps. Après, bon, justement, il y a eu le summum du silence, c'est-à-dire la loi d'amnistie, le pacte de l'oubli. Et là, maintenant, on dirait que ça commence à, justement, après 40 ans de cette loi, on dirait que le silence, il y a une volonté de qu'il soit brisé, non? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, on ne veut pas parler de ces choses-là. Et voilà, et on arrive à une génération comme les nôtres, on ne sait rien.
Ta grand-mère avait perdu son oncle qui avait été fusillé parce qu'il était républicain. Ouais. Son père avait lui-même été en prison parce qu'il était républicain. Et pourtant, elle a épousé un franquiste alors.
Ouais.
T'as des infos ou pas?
Alors, mon grand-père, il vient d'une famille très conservatrice. Mais c'est quelqu'un de... Lui, il est conservateur, mais toutes ses amitiés, depuis le début, c'est des intellectuels de gauche. Il était militaire, mais... Ils se sont rencontrés à Madrid, à ma grand-mère faisait l'université. Elle faisait les révoltes contre Franco. Il y a plein d'amis à elle qui se sont fait prendre et tout. L'université, c'était un des pôles. D'ailleurs, on le voit dans le film aussi. Non, tous les syndicats, ils étaient dans les universités. Après, il y avait la lutte ouvrière, bien évidemment, aussi, qui est super importante pour comprendre toutes les révoltes. Non, mais ma grand-mère, elle était là-dedans, par exemple, aussi. Mais après, elle s'est mariée.
Et donc, tu disais que ceux de ta génération ne sont pas au courant de cette histoire. À l'école, est-ce que vous avez appris des choses sur le franquisme?
J'avais une matière qui s'appelait sociale, et c'était de l'histoire géo-espagnole. Donc, on faisait l'histoire de l'Espagne. Et non. Non. De ce que je m'en rappelle le plus, d'ailleurs, c'est du point de vue un peu économique, non, de ce qu'on avait étudié par rapport au franquisme, c'est les années 60 glorieuses, non, par rapport à l'économie. Que cette époque-là, en Espagne, il y a eu une croissance à partir des années 50. Il y a eu une croissance économique, mais je pense comme dans toute l'Europe, non, c'est les 30 glorieuses, non. Et en Espagne, notamment, il y a eu vraiment une différence parce qu'on passait de la misère de la post-guerre à une croissance économique. Et je me rappelle de ça, vraiment, sous Franco, mais c'est une donnée économique, mais de la dictature en soi, non. De la loi d'amnistie et de la transition, encore moins. Non, non, mais de la guerre civile, un petit chapitre aussi. Et après, c'est avec le film que je me suis réintéressé à toute cette histoire.
Lors d'une projection du film Le silence des autres, Pablo rencontre Horacio Sáenz Olero. Bonjour, il me dit que ce serait chouette qu'on l'appelle parce que Horacio, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Horacio était étudiant, jeune opposant politique, et il est allé en prison pendant la dictature.
Je suis étudiant à l'université à Madrid. L'année 73, il me prend et ils disent que c'est publicité illégale, c'est passé à la tribunal d'ordre public, c'est le tribunal d'ordre public. C'est vraiment un tribunal spécial à lequel tout le monde qui rentre, il sort avec la prison. Pour moi, c'est 5 années et demie à prison.
Je ne sais pas si Pablo, tu aurais une question pour Horacio.
Oui, oui, je voulais savoir, Horacio, quand il y a eu la sentence, non, de la sentencia de la loi d'amnistie en 77, de l'oubli, comment toi personnellement tu l'avais vécu?
Revenons rapidement sur cette loi d'amnistie. Elle a été votée en 77, donc 2 ans après la mort de Franco. On était alors dans un contexte de transition démocratique et à l'époque, au nom de l'unité nationale, la loi, elle libère les prisonniers politiques, mais elle interdit aussi le jugement des crimes du fascisme. À l'époque, en 1977, Horacio était lui déjà sorti de prison. Il n'était donc pas directement concerné par la loi d'amnistie. Mais comme lui, beaucoup d'opposants au franquisme disent que longtemps, ils ont participé au silence. Parce qu'ils voulaient oublier les traumatismes. C'était alors un soulagement d'oublier.
Presque tout le monde, à droite et à gauche, on croit, c'est bon, on doit commencer une autre fois. Mais un année, deux, trois années après, et nous, on connaît que vraiment, les polices que nous avons demandé, ils sont les polices que je suis encore, je les regarde tous les jours, parce qu'ils travaillent et c'est un police qui maintenant, il est plus haut dans l'escalade de fonctionnaires. Et ça c'est, pour nous, ça commence à être vraiment dur, parce que c'est les tortionnaires que nous on connaît, que nous on a passé avec ses mains, et accepter, ça, c'est pas possible, non, c'est pas possible. C'est vrai, nous sommes à l'extérieur, mais ça, c'est pas une démocratie, c'est une autre chose, c'est un accord de silence.
Donc, les tortionnaires qui étaient en place au moment de la période franquiste sont restés après la transition vers la démocratie, ils étaient encore en place.
Oui, oui, bien sûr, absolument tous. Et la justice, aucune personne de tous les apparats de l'État du franquisme, ce sont les ministres qui sont ministres avec Franco, ils sont des ministres. Après, des personnes comme Fraga Iribarne ou Martín Villa, ils sont des ministres avec Franco.
Et juste
Fraga
après, donc...
Iribarne, c'est le chef de la police et il continue. Et c'est le chef qui construit le Parti populaire. À ce moment, nous sommes très optimistes parce que c'est le moment à lequel les jeunes générations, comme Pablo, et ils commencent à demander. Et quand on commence à demander, le mur, il va tomber.
Horacio dit qu'une question, c'est comme un petit trou dans un mur, que l'eau va passer dedans, que le trou va s'élargir, qu'on ne pourra plus l'arrêter et que finalement, il n'y aura plus de mur. On va retrouver Pablo et aussi Maria Dolores, qui elle aussi a participé à creuser ce trou dans le mur. Ce sera après le disque Voilà Big Boss Man par Mercury Rêve et Hope Sandoval. Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? You're just tall, that's all. You got me working, boss man.
working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, you ain't so big, you're just tall.
Cette deuxième partie de l'épisode 25 de Full Continental commence dans un cimetière. On est dans le sud de l'Espagne, pas loin de Séville. On est en 2013. Deux jeunes filles de 25 et 29 ans ont décidé de chercher la fosse dans laquelle ont été enterrées les 17 roses. 17 femmes assassinées pendant la guerre civile en 1937 parce qu'elles étaient soupçonnées d'être républicaines. Malgré la loi d'amnistie, le pacte du silence, qui recouvre cette période de la guerre civile et du franquisme, certaines personnes, comme ces jeunes filles, entreprennent à titre privé ou via des associations d'obtenir des autorisations à l'échelle locale pour pouvoir ouvrir les fosses. Elles veulent savoir ce qui s'est réellement passé pour leurs disparus, effacer les doutes et les enterrer dignement. Depuis 2000, au moins 150 fosses ont été ouvertes comme ça, 1300 personnes ont été exhumées, notamment grâce à des cotisations. Parmi les 17 roses, les 17 femmes déterrées à Guyena, il y avait l'arrière-grand-mère de Maria Dolores. Sa grand-mère avait 4 ans quand sa mère a été embarquée avec 16 autres, torturée et fusillée. Maria Dolores m'avait donné ce jour-là rendez-vous au cimetière. Il faisait très chaud, la lumière était éblouissante sur les tombes blanches. Elle était venue voir le travail des maçons et des fossoyeurs qui fabriquaient une stèle pour les victimes.
Ils les mettaient comme des sardines. Ils balançaient un corps, ils jetaient une pelletée de terre, puis une autre. Et le lendemain, il y avait un autre camion qui arrivait.
Il y a combien de personnes dans la fosse, vous savez ?
70, 80 personnes, peut-être 100.
À côté de la stèle, il y avait une fosse qui, elle, n'avait pas été ouverte.
La famille n'a pas réclamé ses corps. Elle n'a pas fait le travail de recherche et de récupération des siens. Tout ça dépend de la famille. C'est pour ça qu'on a réussi à ouvrir la fosse à Guyenne. Les gens se sont mobilisés, ils le voulaient.
Ça vous surprend que des jeunes filles comme ça s'intéressent à cette histoire et prennent l'initiative de comprendre, d'essayer de chercher leurs arrière-grands-parents?
Non, ça ne me surprend pas. Si ce n'est pas elles qui le faisaient, qui le ferait? Les plus âgés ont encore peur, évidemment qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait des choses horribles. Celles-là, avant de les tuer, on les a rasées, on les a violées, à certaines, on a coupé les seins. C'est pas comme si on les avait simplement exécutées. Les personnes âgées, elles ont toujours peur qu'on les mette en prison. Heureusement, aujourd'hui, il y a la jeunesse qui travaille. Et c'est grâce à elles que les choses vont changer.
Mais il faut que vous vous rendiez compte que l'Espagne est pleine de fosses. Pleine.
Presque 6 années sont passées depuis ces rencontres. En préparant cette émission, j'ai repensé à Maria Dolores. Je me suis dit que j'allais appeler à tout hasard. J'ai retrouvé un vieux numéro et j'étais sûre qu'elle ne décrocherait jamais. Eh bien si, et avec mon espagnol tout pourri, mais non sans joie de l'entendre à nouveau, je lui ai demandé de ses nouvelles.
Sí, me acuerdo.
Fuimos juntos en el cementerio.
Exactamente, ¿cómo estás?
La première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle était devenue maman, il y a 10 mois, de Lola, qu'elle venait d'ailleurs d'aller chercher à la crèche. Elle continue d'être active autour des questions de mémoire. Elle me raconte que pour les 17 roses, ça avait mis près de 4 ans pour avoir les autorisations et commencer à creuser. Et puis, il avait fallu des mois pour localiser la fosse. À l'époque, ils se relayaient tous, les familles des victimes, pour être présentes sur place. Le jour où ils ont finalement trouvé la fosse, ce n'était pas Maria Dolores qui était. Elle se souvient qu'on l'a appelée pour lui annoncer et qu'elle a pleuré comme une folle. Alors elle est allée sur place après le travail, et avec les autres, ils ont aidé à creuser, à nettoyer les os, pendant plusieurs jours. Ensuite, il fallait faire des tests ADN pour savoir qui était qui. Maria Dolores dit qu'elle savait la réponse avant les résultats. Son arrière-grand-mère était une des 2 femmes enceintes dans le groupe. Et elle était connue comme étant très grande. Alors en trouvant les squelettes, elle a tout de suite su. Elle explique que oui, c'était étrange de se retrouver comme ça face à son arrière-grand-mère et que c'était dur parce qu'il y avait les traces de violence. Alors la preuve était bien là, de l'horreur. Mais qu'au moins, elle fait partie des rares qui a retrouvé sa disparue. Beaucoup de familles cherchent encore.
Et te sientes mejor ahora?
Elle conclut, j'étais heureuse pour ma grand-mère qu'elle retrouve sa mère, perdue depuis ses 4 ans. Je suis fière qu'on ait réussi. Mais je considère que ce n'était pas à moi de faire ça. Mon arrière-grand-mère était espagnole, c'était à la justice espagnole de faire son travail. Je lui demande si elle a vu ce film qui vient de sortir, Le silence des autres, dans lequel on voit d'autres familles qui cherchent elles aussi leurs proches disparus. Elle dit oui, qu'elle a beaucoup aimé ce film, que c'est génial que ça existe, mais que c'est toujours la même chose. On fait des films pour témoigner, les familles sont fières, mais derrière ça ne change rien. Elle me dit, tu sais, nous, on a continué le combat depuis que tu es partie, mais rien n'a bougé en 5-6 ans depuis qu'on s'est vus, rien n'a bougé. L'arrière-grand-mère a donc été réenterrée. Mais elle et les 16 autres femmes sont toujours considérées comme disparues. Malgré les cadavres et les traces de violence, c'est impossible de faire reconnaître et enregistrer leur assassinat. Ces questions de droit, de justice et des conditions nécessaires à une démocratie saine, elles sont bien sûr fondamentales. Alors on a rencontré une avocate, Elena Gajou, qui enseigne le droit franco-espagnol à la Sorbonne.
Cette reconnaissance d'être victime, c'est très important pour une victime pour pouvoir ensuite y aller de l'avant. Et là, je parle des victimes qui ont vécu ça directement, mais il y a également les familles qui ont des parents dans les fosses.
Il y a très peu de témoins directs qui ont vécu la guerre, qui sont encore en vie. On voit dans le film, effectivement, des opposants franquistes qui ont été torturés, etc. Mais c'est vrai que ces générations tendent à disparaître. Est-ce que c'est nécessaire?
Oui, mais cette douleur, elle est transmise dans les familles. Pour toutes ces familles-là, c'est très important. Mais même s'il y en avait qu'une seule. C'est une de trop.
La loi d'amnistie espagnole avait été prise en exemple dans de nombreux pays d'Amérique latine, en Argentine notamment ou au Chili, quand ils ont voulu passer à la démocratie. Mais alors que dans le reste du monde, ces jeunes démocraties en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ont abrogé les lois adoptées à la fin des dictatures, l'Espagne, elle, ne l'a pas fait.
C'est un juge connu, Baltasar Garzón. Voilà, Garzón était le magistrat qui a réussi à faire en sorte que Pinochet soit extradé et qu'il soit jugé en Espagne pour les crimes commis pendant la dictature au Chili. Donc l'Espagne, elle a favorisé que des crimes qui avaient été commis pendant la dictature de Pinochet au Chili,
malgré une amnistie,
malgré exactement une loi d'amnistie, soit jugé en Espagne. Donc il a été reconnu comme un magistrat d'un point de vue international, qui avait fait son boulot, qu'il faisait correctement.
Et puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et n'importe quel juge dans le monde peut s'en emparer.
Exactement, c'est-à-dire que finalement, c'est une justice universelle.
Le juge Garzón a ensuite voulu ouvrir un procès en Espagne sur les crimes commis pendant le franquisme. Il a commencé à mener des enquêtes.
Et finalement, les hautes instances judiciaires espagnoles lui sont tombées dessus en invoquant la loi d'amnistie, et il a été écarté. Il n'est plus magistrat aujourd'hui. Donc c'est pour dire jusqu'où la justice en Espagne peut aller lorsqu'il s'agit de protéger finalement des criminels qui sont reconnus comme tels à l'étranger et qu'elle n'est incapable de le faire dans notre propre pays. Il y a eu deux plaignants qui sont partis déposer plainte en Argentine. Ça, c'était en 2010. Aujourd'hui, on en est à 600 plaintes déposées et 9000 plaignants. Le procureur espagnol, donc c'est le gouvernement, à 3 reprises a refusé les extraditions. Et puis il n'y a pas eu ni d'extradition ni de jugement. Donc on voit la pression et le manque d'indépendance de la justice espagnole.
Je lis un article paru dans Le Figaro, une tribune écrite par Benoît Pellistrandi, auteur d'une histoire de l'Espagne. Voilà ce qu'il écrit. Le consensus de la transition démocratique a laissé place à une solide démocratie, qui vit sur le clivage gauche-droite. La gauche d'aujourd'hui voudrait prendre une revanche posthume, en imposant une lecture uniquement centrée sur la répression franquiste et en atténuant, voire en occultant, le souvenir de l'arbitraire républicain. On tourne ainsi le dos à la réconciliation qui suppose la reconnaissance mutuelle des tueries des deux camps. Aujourd'hui, le pouvoir franquiste n'existe plus, il n'est même pas tapis dans l'ombre. Franco est mort, et bien mort. L'Espagne est tellement post-franquiste qu'on ne réveille pas un fantôme en l'exhumant, mais on fait vibrer une corde sensible dans la culture politique de la gauche espagnole et on espère placer la droite en difficulté. Les politiques espagnoles devraient davantage rassembler leurs électeurs qui disent, sondage après sondage, quels sont les vrais problèmes du pays. Jusqu'à ce jour, Franco n'apparaissait jamais sur la liste, mais la corruption, le chômage, l'intégrité des responsables politiques, l'unité du pays, l'immigration figuraient en bonne place.
On nous a parlé de démocratie pendant 40 ans. Ça a avancé. Les gens avaient besoin de sortir de la guerre civile et du franquisme et avaient besoin de croire dans l'idée de la démocratie et de la liberté. Quand on voit que la police, qui était une police répressive sous Franco, est devenue une police démocratique après, non. En réalité, c'est la même police qui exerce ses fonctions de la même manière.
Pas de la même manière.
Non, mais
il n'y a plus de torture.
Il n'y a plus de torture, sauf qu'après Franco, après le décès de Franco, il y a eu quand même des assassinats qui ont été commis par la police. Il y a eu 90 crimes d'État commis, en fait, entre 76 et je crois que c'est 79. Donc, ça a continué après.
Et pourquoi est-ce qu'il faut revenir là-dessus, maintenant ?
Il faut revenir là-dessus parce que l'Espagne ne peut pas se construire, en réalité. On parle de démocratie et il n'y a pas de démocratie. Quand on voit les rapports du Greco, l'organisation du Conseil de l'Europe qui s'occupe de la corruption, et que ce rapport, il y a eu sur l'Espagne un document qui a été rendu en janvier 2018 qui fait un bilan catastrophique de l'indépendance de la justice espagnole. Il y avait eu préalablement un document qui avait été fait par le Greco avec des recommandations en donnant des délais à l'État espagnol pour faire les réformes nécessaires. Aucune de ces réformes n'a été menée à terme. Et pourquoi il fallait faire ces réformes ? Parce qu'en réalité, il y a une opacité totale. Et surtout, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et si la justice n'est pas indépendante, on ne peut pas avancer dans la démocratie.
Le gouvernement du PP, le Parti populaire de droite, est tombé l'année dernière suite à un vaste scandale de corruption, dénoncé notamment par la lanceuse d'alerte Ana Garrido, qu'on avait entendue dans l'épisode 21, je ne sais pas si vous en souvenez. En tout cas, suite à ça, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, qui est arrivé au gouvernement, a pris la décision d'exhumer l'ancien dictateur de son mausolée à Valle de los Caídos, où il se trouve depuis sa mort. Il existe une fondation Francisco Franco qui organise des cérémonies de louanges en l'honneur du dictateur et qui se donne comme mission d'empêcher toute tentative de salir sa mémoire. Le Parlement européen a demandé au gouvernement espagnol d'interdire ses activités, en particulier celles qui exaltent la figure du dictateur. Elena, elle, va plus loin. Elle estime que les violations des droits de l'homme sont telles en Espagne qu'il faudrait appliquer l'article 7 du traité de l'Union européenne, au même titre que la Pologne et la Hongrie.
Les franquistes, ceux qui sont d'extrême droite, n'ont jamais disparu. Ils étaient en silence et ils attendaient de pouvoir refaire surface. Et ils se retrouvaient dans des petits groupuscules. Et aujourd'hui, ça ressort de manière totalement décomplexée. Comme les oppresseurs, comme les criminels n'ont pas été jugés, mais finalement, tout est permis. Parce qu'il n'y a pas de sanctions.
Lors des dernières élections régionales en Andalousie, c'était en décembre 2018, Vox, un parti d'extrême droite, a obtenu 11% des voix. Ce parti est donc devenu un allié incontournable pour les centristes de Ciudadanos et le Partido Popular de droite. Ils ont donc fait une coalition pour prendre le pouvoir dans une région qui était un bastion socialiste. Ce basculement en décembre dernier était d'autant plus frappant que le parti Vox, né en 2013, avait obtenu seulement 0,20% des voix en 2016. À Guyena, où vit Maria Dolores, qui travaille sur le dossier des 17 roses, le parti Vox a obtenu plus de 500 votes. Maria Dolores dit que c'est parce que les gens ont été convaincus sur les réseaux sociaux par rapport à des inquiétudes liées aux aides sociales et à l'immigration. Elle dit qu'elle va continuer à lutter, mais qu'avec ce gouvernement au pouvoir, pendant les 4 années à venir, le dossier des 17 roses n'avancera pas.
Il y a une grande partie de la population encore qui est très attachée à ces idéaux, à les mêmes piliers moraux qu'il y avait pendant le franquisme.
Tout à l'heure, on entendait Pablo, ce garçon ténébreux de 25 ans, barcelonais, qui fait de la guitare. Pablo travaille sur la mémoire du franquisme et sur le film « Le silence des autres », qui est en salle en ce moment. Il raconte que parmi ses cousins madrilènes, certains avaient voté Vox, surtout parmi les plus âgés. Il les voit une fois par an à Noël. Il dit que c'est comme dans toutes les familles, il y a des désaccords. Chez les jeunes, on parle et ça ne dégénère pas. Mais chez les oncles et tantes, après un verre de vin, le ton peut monter.
Les piliers, c'est la famille. Les piliers, c'est l'Espagne. Une exaltation patriotique de l'Espagne. Chose qui rassemble beaucoup de personnes maintenant, parce que bon, il y a plein de gens que, avec l'indépendantisme catalan, de l'autre côté, ils se sont sentis menacés. Et du coup, il y a cette exaltation du drapeau. Mais en général, hein, je pourrais aussi le dire par rapport à l'indépendantisme catalan, par rapport au drapeau de la Catalogne, par rapport au drapeau de l'Espagne. Moi, pour moi, c'est des choses que personnellement, j'aime pas. Et là, je trouve qu'il y a vraiment, en Espagne, on est dans un moment où les drapeaux comptent plus que le raisonnement.
T'as amené des bouquins, c'est quoi là, les livres que tu as pris?
Ça, c'est un ami à moi qui travaille dans une maison d'édition ici, qui s'appelle Le Temps des Cerises. Et il m'a offert ce livre qui s'appelle Chansons et refrains d'absence de Miguel Hernández, que c'est un poète. Et c'est des poèmes super simples, c'est très très beau et très direct par rapport à l'époque de la guerre justement, et à cette espèce d'espoir dans l'amour tout le temps, dans une époque où il y a la mort partout. Et ah, ça c'est très très beau. Il dit, en espagnol il dit: tan cercanos y a veces que lejos los sentimos, tú yéndote a los muertos y yo yéndome a los vivos. Ce qui voudrait dire en français: si proche et parfois si lointain on les sent, toi tu vas vers les morts et moi vers les vivants.
On s'est dit que c'était peut-être le mieux à faire de terminer sur des mots d'amour. Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner ici et à vous pour votre écoute. Pour ceux qui souhaitent voir le film Le silence des autres, il est en salle depuis le 13 février. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook et sur Twitter ou Instagram avec le hashtag Full Continental. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage, merci à Djoubaka et Romain Couturier pour la musique et à Claire Brault pour les illustrations. Figurez-vous que nous sommes en partenariat avec Libération, alors vous retrouverez un petit extrait de cette émission dans la double page qui consacre à l'Europe ce lundi 18. Très belle semaine à tous et à dimanche prochain.
Et merci à vous Caroline Gillet, à suivre Zoé Varier. Vous écoutez France Inter, il est 14h.